pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour et bienvenue dans C'est pas du vent.
Nous sommes venus en France, nous ne sommes pas venus en aventure, nous sommes venus pour étudier, nous sommes venus pour apprendre et effectivement nous n'avons pas été déçus. Il faut aller transmettre. Et je lance un message aux jeunes Africains. Il n'est pas toujours dit que Paris est un paradis. Non, le paradis, c'est également chez nous. La terre vaut de l'or.
Ils viennent du Burkina Faso, du Cameroun, de Tunisie ou encore du Cambodge. Ils sont agriculteurs et ont été accueillis pendant 15 jours dans des exploitations agricoles françaises. Le but, échanger bien sûr, mais aussi et surtout découvrir des cultures différentes. Les rencontres internationales de l'agriculture familiale, c'est un reportage d'Alice Milo à retrouver dans la deuxième partie de cette émission. À suivre durant les 20 prochaines minutes, une rencontre avec un inventeur pas comme les autres. Il s'appelle César Arada, il est franco-japonais et il veut tout simplement dépolluer les océans et pour cela cet écologiste militant a créé un drone marin à la libre disposition du public. Toutes les explications avec Charlie Dupiot. Autre sujet avec un gros plan sur le mercure, une substance toxique connue, nocive pour les êtres humains et pour l'environnement. Selon l'OMS, le mercure et ses composés constituent même l'un des 10 groupes de produits chimiques les plus préoccupants pour la santé publique. Pourtant on en trouve dans de nombreux produits comme les piles ou les batteries, mais également dans certains cosmétiques ou dans les amalgames dentaires. Et alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut diminuer les quantités de mercure présentes dans ces produits, voire les éliminer, eh bien notre vieille Europe semble à la traîne et ce sont les États africains qui montrent la voie. La Gambie, le Cameroun, le Gabon, le Zimbabwe et j'en passe, c'est le Nigeria qui a annoncé en juillet qu'il se dirigeait vers une dentisterie sans mercure et qu'il faisait même de cette transition une priorité en raison des problèmes environnementaux et sanitaires engendrés par le mercure dentaire. Alors quels sont ces problèmes? Comment expliquer les tergiversations des États européens? C'est ce que nous allons voir avec notre invité Geoffrey Begon, délégué général de Non au mercure dentaire et chargé de mission pour RES, le réseau environnement santé. Geoffrey Begon, bonjour.
Bonjour monsieur.
Quels sont les problèmes sanitaires et environnementaux liés au mercure dentaire?
Ils sont considérables. Alors le mercure déjà en soi est une substance extrêmement toxique, l'une des substances non radioactives les plus toxiques que l'on connaisse. Non seulement il s'attaque à tous les systèmes dans l'organisme, le système nerveux, le système endocrinien, le système immunitaire et puis certains organes spécifiques comme les reins. Mais en plus, il va avoir tendance à se bioaccumuler, c'est-à-dire qu'il va s'accumuler dans les organismes au fil du temps. Et dans l'environnement, il est extrêmement persistant. Il a une tendance aussi à s'accumuler le long des chaînes alimentaires. Du mercure rejeté, par exemple, dans l'eau, va se retrouver par un phénomène qu'on appelle de bioamplification, de manière très très concentrée dans les gros poissons.
Et ça, c'est un problème qu'on retrouve également avec le mercure dentaire, justement, ou le risque est moindre?
C'est un problème qu'on va absolument retrouver avec le mercure dentaire, puisque à partir du moment où il va être rejeté dans l'environnement, quand on enlève une dent qui ne sert plus et qui a été cariée, ce mercure dentaire va se retrouver dans l'environnement et va subir toutes ces transformations qui fait qu'à un moment, il va se retrouver dans notre alimentation. Alors en Europe, maintenant, il y a obligation d'équiper les laboratoires avec des séparateurs d'amalgame afin que ce mercure soit mis à l'écart. Alors ça ne règle pas tout, puisque depuis les cabinets dentaires, le mercure va se retrouver dans l'eau en partie, dans l'atmosphère. Lors des crémations, par exemple, des personnes, il va être à nouveau vaporisé. Donc, il y a tout un tas de problèmes qui se posent encore. Mais il y a un petit frein avec ces séparateurs d'amalgame. C'est pas forcément le cas, par exemple, dans les pays africains, où si vraiment on veut se débarrasser de ce problème du mercure dans l'environnement, soit on s'équipe de manière très très onéreuse en séparateurs d'amalgame, soit on arrête d'utiliser du mercure dentaire. Donc là, il y a vraiment un enjeu impérieux.
Alors, comment expliquer la position frileuse de l'Europe?
Elle s'explique d'une manière assez simple, en fait. L'amalgame dentaire est un dispositif médical. À ce titre, il n'est pas régi, comme tous les autres usages du mercure, par le ministère de l'Environnement. Il va échapper à ce contrôle-là. C'est le ministère de la Santé qui s'en occupe, et en particulier l'agence du médicament, autrefois la FSAPS, et maintenant la NSM. Or, il se trouve que dans cette agence du médicament, les dentistes, les représentants des instances dentaires occupent des positions stratégiques qui font qu'ils maintiennent le statu quo. Ils veulent conserver ce dispositif médical-là parce qu'il leur est très pratique, parce qu'ils gagnent plus d'argent en utilisant du mercure dentaire que d'autres matériaux d'obturation. Or, c'est absolument injustifiable car en Europe, le mercure dentaire, et encore plus en France, est vraiment notre premier facteur d'exposition au mercure. C'est aussi le premier facteur in fine de déchets de mercure dans l'environnement et c'est quelque chose qui va en s'accentuant parce que tous les autres usages du mercure sont réglementés, écartés, interdits.
Une consultation d'experts de l'OMS organisée en 2009 a conclu qu'une interdiction mondiale à court terme des amalgames poserait un problème pour la santé publique et le secteur dentaire, mais qu'une élimination progressive devrait être visée. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est la bonne solution selon vous ?
Alors, l'argument qui est brandi par les experts de l'OMS, c'est que le mercure dentaire serait le moins onéreux des matériaux d'obturation. À ce titre-là, les pays pauvres ne pourraient pas s'en dispenser du jour au lendemain. C'est un argument qui est fallacieux à plusieurs titres. D'abord, le mercure dentaire, effectivement, à l'achat, est moins cher que les autres matériaux d'obturation. Cela dit, si on tient compte de l'impact sanitaire, c'est-à-dire des effets qu'il peut avoir sur les porteurs d'amalgame directement et des effets environnementaux avec les rejets, là on a un impact écologique qui est vraiment très très important et qui n'est jamais pris en compte dans ce type d'études. In fine, les autres matériaux d'obturation se trouvent être moins onéreux que l'amalgame dentaire. D'autre part, les pays d'Afrique aujourd'hui montrent que c'est possible d'en finir avec le mercure dentaire. Le Cameroun, par exemple, a décidé par décret qu'il n'en voulait plus. Et ça s'appliquera à la fin de l'année. De même, le Nigeria s'est engagé à arrêter d'utiliser le mercure dentaire. Alors, il y a d'autres pays qui n'ont pas forcément proclamé ça de manière officielle, mais qui, officieusement, commencent vraiment à se désengager de la dentisterie qui utilise du mercure. Et ce sera par exemple le cas sur les îles, comme à Maurice ou à Madagascar. Les États se sont engagés à ne plus commander de mercure dentaire une fois qu'ils n'en auront plus parce qu'il n'y en a pas chez eux et ils n'ont pas les moyens ni de le stocker ni de traiter les déchets. Donc ils finissent ce qu'ils ont et puis après ils passent à autre chose.
Vous pensez justement que si de plus en plus d'États africains s'engagent dans une dentisterie sans mercure justement, ça peut faire changer la position des États européens ?
En tout cas, ça fera nécessairement changer l'idée reçue selon laquelle les pauvres ont besoin du mercure. Parce qu'actuellement, si on revient en Europe, et en particulier en France, on constate qu'il y a une assez mauvaise prise en charge des populations les plus pauvres, de sorte que ce sont eux qui vont avoir le plus de dents cariées, et ce sont eux donc qu'on va les plus emmercurer, puisque les populations plus riches, elles, on va leur donner plutôt des matériaux d'obturation blancs qui seront invisibles. Voilà. Donc, il est évident qu'au point de vue de l'image, au point de vue symbolique, cet engagement de l'Afrique vers une dentisterie sans mercure est quelque chose de considérablement puissant.
Et il faut rappeler que certains États européens ont ratifié la convention de Minamata sur le mercure, mais cette convention n'oblige pas à abandonner le mercure dentaire. Pourquoi ? Comment l'expliquez-vous ?
De nombreux États d'Europe, mais la France aussi, a signé cette convention. Alors pourquoi la convention de Minamata n'oblige pas d'interdire le mercure dentaire ? Parce que il y avait des représentants des dentistes et des représentants de l'OMS soutenant cette position donc, que vous évoquiez tout à l'heure, selon laquelle les pays pauvres ne peuvent pas se passer de mercure, à l'intérieur des cycles de discussion, et ils ont fait pression, de manière très très claire, les instances dentaires ont proposé aux fabricants d'amalgames d'être leur porte-parole à l'intérieur du cycle de conférence qui a conduit à la convention de Minamata pour faire en sorte que, comme ils disent, le marché de l'amalgame continue à exister. Il y a des documents qui le montrent très très clairement. Le mercure dentaire persiste en dépit de la convention de Minamata. Cela dit, les pays d'Europe qui ne voulaient plus du mercure s'en sont débarrassés depuis un certain nombre d'années, notamment la Norvège, la Suède, qui d'abord l'ont déremboursé et ensuite l'ont tout à fait interdit. Mais même les pays qui ne l'ont pas officiellement interdit, c'est pareil, autour de nous, ils utilisent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de mercure que nous. Il suffit d'arrêter d'enseigner, par exemple, c'est ce qui se fait en Suisse, d'arrêter d'enseigner la pose d'amalgame et d'enseigner la pose des alternatifs à la place. Ou alors, il suffit effectivement de mettre des barrières, comme de dérembourser l'amalgame ou de mettre une taxe dessus. Il y a des tas de stratégies qui permettent d'arriver à ça. Mais pour l'instant, l'ordre des dentistes n'est pas du tout dans cette position.
Vous pensez que justement on pourrait faire évoluer les choses et que l'Europe devrait se passer de l'avis des lobbies, de la Fédération dentaire internationale notamment ?
Ce serait extrêmement souhaitable. Cependant, l'Agence du médicament y a dernièrement confié une expertise à des experts indépendants, enfin, pour la première fois. Jusque-là, il les confiait sans trop regarder à des partisans de l'amalgame, voilà, en ne leur offrant aucun contradicteur. Donc récemment, ils ont quand même offert sous notre pression, c'est la dernière expertise, à une équipe indépendante dirigée par le professeur Bégaud. Et nous devions avoir cette expertise et la commenter prochainement. Finalement, nous ne connaissons pas les résultats de cette expertise, elle nous est dissimulée. Et par contre, le commentaire en a été confié aux instances dentaires à nouveau. Donc ce qui nous fait craindre qu'il va y avoir un nouveau retard pour l'arrêt de l'amalgame en France. Ça fait des décennies qu'on sait que ce mercure dentaire, il passe dans le sang, il passe dans le bébé chez la femme enceinte, qui contamine tout le monde, qu'il a sans doute des effets sur de nombreuses maladies neurologiques, notamment la sclérose en plaques, notamment l'autisme, etc. Il faut vraiment en finir avec cet usage. Et les agences sanitaires se rendent vraiment coupables en utilisant tous les détours possibles pour retarder cette échéance.
Eh bien, merci beaucoup, Geoffrey Begon. Je rappelle que vous êtes délégué général de Non au Mercure Dentaire et chargé de mission pour RES, le réseau Environnement Santé. Merci, très bonne journée à vous.
Merci à vous. Au revoir.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Après le mercure dentaire, gros plan sur Protei, un drone marin d'un mètre de long qui va permettre de dépolluer les océans sans polluer. Autre particularité de ce drone écolo, il est open source, c'est-à-dire à la disposition du public. Partout dans le monde, on peut donc télécharger les plans et participer à son élaboration. Notre reporter Charlie Dupiot a rencontré son inventeur, le franco-japonais César Arada.
Protei, c'est un bateau, un navire à voile, autonome, à coque articulée. Donc en fait, vous pouvez régler le profil hydrodynamique de la coque et tourner à droite ou à gauche en changeant la forme du bateau. Il a été développé originellement pour nettoyer les marées noires. Aujourd'hui, c'est notre objectif à long terme, mais l'idée, c'est d'avoir un navire qui navigue tout seul dans la mer et qui va faire beaucoup de mesures marines. Donc que ce soit des mesures de pollution, de plastique, de radioactivité. Le premier Protei a été fabriqué en 2010 pendant la marée noire dans le golfe du Mexique. Donc il y avait des millions et des millions de tonnes de pétrole qui se déversaient dans le golfe du Mexique. Donc il y avait une urgence environnementale qui était flagrante. Et il y avait un manque de solutions. On a commencé avec des bateaux qui faisaient 1 mètre et tiraient 25 mètres de charge. Et la charge était un boudin absorbant, ça ressemble à une sorte de gros oreiller, en fait, si vous voulez, ce qu'on utilise dans l'industrie pour absorber le pétrole pendant le marée noire. Mais petit à petit, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'au lieu de tirer une grosse bouée, on peut tirer, en fait, un bateau qui est modulaire. Donc, au lieu d'avoir un bateau à voile conventionnel, avec une coque articulée, on peut fabriquer un bateau comme un train. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir une locomotive, si vous voulez, à l'avant, avec une voile, et on peut avoir des wagons derrière, et on peut avoir dans chacun de ces wagons une expérience ou de l'instrumentation scientifique qui soit différente. Donc c'est-à-dire qu'on peut, si on veut travailler sur la marée noire, on peut avoir le premier locomotive qui va chercher à mesurer le pétrole, et le deuxième, par exemple, qui va étudier la population de poissons. Et de cette manière, on va pouvoir établir une corrélation ou une relation, comprendre quel est l'impact de la marée noire, par exemple, sur la population de poissons. Et donc ça, c'est le genre de choses que normalement, on a besoin de deux bateaux, deux équipes. C'est un engin de recherche qui est modulaire. et voilà, qui se veut robuste et flexible.
Et qui permet de ne pas envoyer des grands navires dans la mer avec plus de...
De gens, de coûts et de risques. Parce que si c'est des zones très polluées, donc pour le pétrole, souvent c'est pas forcément bon pour les gens d'être au milieu d'une marée noire, aussi dangereux pour les explosions, le feu. Et pour la radioactivité, le danger est assez évident. Il y a eu une plainte de plus de 70 Américains qui étaient à bord du USS Donald Reagan, qui sont venus faire une opération militaire qui s'appelle Opération Tomodachi, au large de Fukushima, après le grand tremblement de terre et l'explosion nucléaire. Et sur un personnel de 2 000-3 000 marins, il y en a plus de 70 qui ont développé différents types de cancers un an après l'exposition. Donc il y a un réel danger de travailler dans ces zones.
Alors que Protei, du coup, ne nécessite d'envoyer personne sur le terrain.
Exactement. Donc c'est un navire autonome, donc on doit le préprogrammer. Et il est encore à l'état de recherche aujourd'hui, faut être très clair. Mais à terme, c'est ce qu'on aura. Donc on aura un navire qui est autonome, qu'on peut envoyer faire des missions dangereuses dans des lieux inaccessibles ou des tâches répétitives. Voilà.
Donc c'est vous qui avez eu l'idée de ce Protei?
Oui, au départ, je travaillais tout seul dans un garage à New Orleans, à Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. J'ai commencé à fabriquer moi-même mes propres petits bateaux. Et puis, quand je me suis rendu compte que c'était intéressant, j'ai commencé à les filmer, j'ai fait un site internet. Il y a beaucoup d'ingénieurs et de scientifiques qui se sont intéressés et on s'est constitué en équipe assez rapidement.
Donc, des ingénieurs qui venaient d'où?
De partout. Des Norvégiens, des Français, des Américains, Coréens. Il y a des gens qui sont des mathématiciens, qui font des calculs de mécanique des fluides, d'autres qui étaient simplement des navigateurs, qui ont l'expérience de la mer et qui pouvaient nous dire, voilà, par intuition, que le bateau fonctionnerait pas. Il y a eu des designers qui ont des idées sur quels matériaux on pourrait utiliser, comment on pourrait fabriquer la structure mécanique.
Open source, concrètement, ça veut dire quoi?
La traduction littérale, c'est matériel libre. C'est-à-dire que quand vous faites une technologie open source, vous la faites de manière à ce que d'autres personnes puissent la copier et l'améliorer. Et open source, ça ne veut pas dire c'est n'importe quoi. Open source, c'est des conditions, je vous expliquais, c'est un contrat. C'est-à-dire qu'on demande aux gens, s'ils utilisent la technologie et qu'ils l'améliorent, de le partager avec la communauté. Plus de personnes travaillent sur le sujet et la technologie, plus la communauté grandit, plus la technologie s'améliore rapidement, à moindre coût. On a un but de la société qui est d'explorer et de nettoyer les océans. Et donc, on ne sera jamais trop de personnes pour aller nettoyer les océans. Donc, c'est aussi pour ça, notre société, si elle est open source, c'est parce que même si on avait 1000 sociétés open source, on finirait pas le travail. Donc, il y a du boulot, quoi.
Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de Protei? Comment vous voyez le futur de ce navire autonome?
Il y a plusieurs choses qu'on va chercher à faire dans les mois qui viennent. Donc, c'est apprendre à piloter un essaim, par exemple, une flottille de ces bateaux. Donc, je sais pas, imaginez, il y a une marée noire. Il y aura besoin de plus d'un bateau. On a besoin de centaines de bateaux. Donc, on pourra mieux comprendre les changements de climat, on pourra comprendre où est le plastique dans les océans. Il y a 99% de la pollution de plastique, on ne sait pas où elle est passée. On pensait qu'elle était dans les océans, en fait elle est autre part. Enfin, elle est soit mangée par les poissons, soit elle est devenue juste une pollution chimique, soit elle est sur les côtes. Voilà. Si elle est dans les poissons, elle est dans nos assiettes, toutes ces choses-là qui nous concernent notre santé à tous chaque jour. Donc c'est pour ça que je veux que cette technologie soit open source. Le projet sera jamais ce qu'il est aujourd'hui si d'autres personnes, d'autres expertises ou d'autres curiosités ou d'autres envies n'avaient pas rejoint le projet. Donc là, c'est un projet qui était personnel au début, mais qui est devenu vraiment un projet collectif maintenant.
Pourquoi pour vous c'était important de faire ce choix de l'open source?
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se complaisent dans une société et se disent, voilà, on peut pas changer les choses. Même il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent plus voter, tout ça. Donc si on veut plus voter, si on veut pas fabriquer sa propre nourriture, si on veut pas écrire ses propres idées, si on fait que consommer la télévision, si on fait que dénigrer une situation politique, si on fait pas de propositions, si on fait que parler de pollution, rien va changer. Et donc je pense que l'open source, en fait, c'est redonner les clés de notre univers technologique aux gens et leur dire, voilà, en fait, vous avez votre destin et celui de la société, de l'histoire, et dans vos mains.
C'était César Arada, l'inventeur du drone écologique marin Protei, au micro de Charlie Dupiot. Restez avec nous à suivre un reportage d'Alice Milo sur les rencontres internationales de l'agriculture familiale. Mais tout de suite, un flash info sur RFI.